Jean-Philippe Lana, bonjour.
Bonjour Didier.
Vous êtes le président du conseil de surveillance de Global Equities. On va parler avec vous de marché actions, de perspectives, peut-être aussi de marché obligataire. On se pose beaucoup de questions sur, en tout cas, cette année 2013. Comment vous envisagez-vous les choses aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des éléments un peu plus positifs sur les marchés? On a vu un peu plus d'investisseurs prendre de risques. Est-ce que c'est votre attitude a été celle-là au cours des derniers mois?
Écoutez, bon d'abord, moi je suis, je dirais heureusement ou malheureusement, quelqu'un qui exerce cette activité fait une activité de gestion ou de conseil ou d'analyse sur les marchés financiers depuis pas mal de temps, parce que j'ai dû commencer dans les années 70. Donc j'ai pas mal de recul. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé une période qui ressemblait à une autre. Donc ça m'aidait dans mes raisonnements et également dans mon action. Cette fois-ci, je n'ai aucun point de référence. C'est-à-dire sur les 40 années de vie professionnelle que j'ai exercée dans ces différents domaines, je ne trouve aucune période comparable à celle-là. Alors simplement pour l'expliciter ou l'expliquer en peu de mots, d'abord elle se dissocie en deux. Il y a ce qu'on appelle une partie économique et puis à côté une partie monétaire et financière. Alors la partie économique, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement économique qui n'est pas bon, au sens où, par exemple, bon, nous en Europe, nous allons vivre une année de récession, ce qui est quand même une perspective, surtout par rapport à notre point de départ, qui n'est pas brillante, qu'on a espéré que la reprise, ou en tout cas la dynamique de croissance, viendrait de l'extérieur. Les États-Unis, c'est probablement le pays où la situation est la meilleure. En tout cas, la plus intéressante à regarder. Enfin bon, les perspectives sont quand même pas brillantes, c'est-à-dire qu'on va avoir 2,5, peut-être 3% de croissance en fin d'année, mais moins que ce qu'on espérait à la fin de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on espérait plutôt tourner autour de 3,5 en fin d'année. Les pays émergents, en particulier la Chine, bon, il y a des révisions qui vont. C'est difficile d'avoir une analyse sur l'économie chinoise, mais enfin, les statistiques ou les révisions se font plutôt en baisse. Donc la dynamique de croissance est moins bonne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir tout ce qui est, je dirais, permet d'évaluer la dynamique de croissance, c'est-à-dire les taux obligataires, les cours des matières premières et autres. Contestablement, c'est pas bon, on n'est pas dans une bonne orientation. Donc, on a une mauvaise orientation macroéconomique.
Ça a pas eu l'air d'inquiéter les investisseurs à ce jour. Enfin, si on
Non,
regarde les indices
ça les
boursiers.
inquiète pas, mais disons que bon, c'est une réalité. Par contre, à côté, il y a le monétaire et financier. Alors là, ça rend l'exercice très difficile. Et vous me disiez, tout le monde est plutôt optimiste, je vais vous donner un facteur d'optimisme. Le taux moyen de l'EONIA sur les 15 premiers jours de mars. L'EONIA, c'est l'argent au jour le jour. 5 centimes. C'est-à-dire que l'argent, pour prendre le prix de l'argent, en termes de taux d'intérêt au jour le jour, ne vaut rien. Que le taux à 3 mois, le RIBOR, dans 3 mois, la Banque Centrale Européenne peut baisser ses taux, les a pas baissés, les baissera pas. En tout cas, on est à 20 centimes sur le taux RIBOR à 3 mois. Sur le taux américain, on est quasiment à zéro. Et on vient de connaître une adjudication à 2 ans à 41 centimes. Donc, vous avez de l'argent, qu'est-ce que vous faites, qui a été sursouscrite. Qu'est-ce qu'on fait avec de l'argent? C'est très compliqué. Et donc, du coup, il y a des reports sur des actifs qui présentent un intérêt et sur lesquels les risques ne paraissent pas considérables. Alors, on essaie de jauger et d'apprécier les risques. Il y a une étude qui est sortie, moi, qui m'a, je dirais, pas apostrophé, mais qui m'a en tout cas interpellé. C'est une étude sur les valeurs allemandes, actions allemandes, représentatifs des grandes sociétés qui ont pu être achetées dans les années 20. L'exemple, en l'occurrence, c'était Siemens. C'est comme si aujourd'hui on disait L'Oréal, Essilor, IBM, des affaires comme ça. Siemens acheté dans les années 20, on a traversé la dépression, la guerre, la reconstruction. En 1960, ça valait plus cher qu'en 1920. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous achetez des bonnes affaires, enfin ce qu'on appelle la bonne affaire, il peut se passer n'importe quoi, tremblement de terre, guerre, je pense qu'il n'y aura pas, mais problèmes économiques majeurs et tout, vous retrouverez votre argent probablement un peu plus. Donc finalement, On courbe le dos et on dit on achète les affaires qui nous intéressent ou qui nous intéresseront plus tard. Donc on est aujourd'hui complètement sorti de tout ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. La macroéconomie, on connaît, on arrive à peu près à cerner. Le monétaire et le financier, on connaît aussi. Les taux vont rester bas. Moi, je ne suis pas partie des gens qui pensent qu'on aura une tension sur les marchés obligataires. Je ne crois pas. Au fur, on peut remonter de quelques points de base. On est à 2% sur l'emprunt d'État français. On peut remonter à 2,20, 2,50. C'est possible. L'emprunt d'État américain, on est à 2 sur le 10 ans, 2,05. On peut remonter à 2,30, 2,40, c'est possible. Enfin, ce n'est pas des tensions. Je pense pas que ça ira beaucoup plus loin parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tension et l'environnement reste relativement déflationniste. Et puis bon, les excédents chinois, il faut bien qu'ils aillent quelque part, mais ils achètent les emprunts d'État américains. Ils rendent un peu ce qu'ils prennent en activité, ils le rendent en compensant par des souscriptions à des obligations, à des taux très bas. Donc je pense que ça, tout ça, ça n'ira pas très loin. Donc ce qu'il faut, c'est se lancer dans des études approfondies, faire de la prospective sur l'univers de demain, les sociétés qui s'en sortiront le mieux et faire des choix.
C'est-à-dire qu'on est obligé quelque part de retrouver un peu les, on pourrait dire les fondamentaux, en tout cas pour ceux qui...
La microéconomie.
Et dire, voilà, les entreprises qui, quels que soient les événements qu'on a du mal à maîtriser...
La microéconomie. Ou alors, celles qui seront les entreprises de demain. Je veux dire, bon, il y a 5 ou 6 ans, on a acheté de l'Apple, on faisait un carton. Il y a 3 à 4 ans, on a acheté du Google, c'est pareil, on faisait un carton. Aujourd'hui, il faut essayer de trouver quelles sociétés on va acheter qui, dans 3-4 ans, feront un carton. Il y en a. Je ne peux pas vous dire lesquelles, si je le savais. D'ailleurs, je crois que je ne le dirais pas parce que je n'oserais pas le dire. Mais de toute façon, je ne le sais pas. Donc, bon, ben, faut faire ce type de recherche. Mais il faut changer complètement de fusil d'épaule. Et je veux dire, tous les établissements bancaires qui font de l'ingénierie patrimoniale, ce que je trouve admirable dans un environnement fiscal qui change toutes les 48 heures, ou qui font de l'analyse conjoncturelle pour aboutir tous au même résultat à l'arrivée, ce n'est pas tellement intéressant. Il ferait mieux de mobiliser toutes leurs ressources.
Sur la recherche fondamentale.
Sur la recherche, les entreprises.
Oui. Trouver les
et
entreprises.
Trouver les entreprises qui présentent un réel intérêt. Bon, dans ces cas-là, à mon avis, on est tranquille.
Donc il pourrait y avoir aussi bien des entreprises qui existent aujourd'hui, qui, ont déjà, voilà, qui peuvent être déjà internationales, voire mondiales, mais qui vont bénéficier de telle ou telle.
Oui, il y a aussi une autre chose qui paraît pas très, qui paraît peu intéressant, ce sont toutes les sociétés qui ont un rendement sécurisé. Je ne parle pas des affaires sur lesquelles il pourrait y avoir des remises en cause. France Télécom, par exemple, ça ne m'intéresse pas. Je suis incapable de savoir si la société existera telle qu'elle est dans 2 ou 3 ans. Non, par contre, je prends un exemple simple. Une affaire comme Danone, ce n'est pas passionnant non plus. Enfin, ça rapporte 3%. Je veux dire, ça fait quand même 50% de plus que le taux des emprunts d'État. Il y en a quelques-unes comme ça. Hein. Ce n'est pas très dangereux. L'Oréal, ça rapporte 1,5%. C'est beaucoup par rapport à ce que c'est. Donc, ça, ce n'est pas très dangereux. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'à mon avis, on a des opérations qui viennent comme Warren Buffett qui achète Heinz et qui va en acheter d'autres. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Moi, j'avoue que malheureusement, je suis un peu... désemparé parce que...
Il n'y a pas de boussole facile. Voilà, on est un peu avec une boussole.
Non, puis surtout, on n'a plus les moyens... qu'on pouvait avoir, je veux dire là, personne ne fait de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que vous avez,
oui, ça a disparu dans
vous avez les feuilles de choux qui sortent dans les journaux spécialisés ou dans les études de brokerage pour faire vendre un titre qui présente un intérêt qui va monter de 10,50 € à 11,20 €. Bon, ça n'a aucun intérêt, hein. C'est pas ça qui nous intéresse, mais personne ne fait ça. Il y avait, moi j'ai connu des bureaux d'études indépendants qui faisaient des entreprises comme Alpha Value, c'est peut-être possible, des choses comme ça. Mais j'ai connu des bureaux d'études de très grande qualité qui étaient capables de sortir de véritables études sur des sociétés. Même aux États-Unis, il n'y en a pas.
Donc aujourd'hui, ça manque quelque part pour, dans un brouillard économique et financier, finalement, d'être capable d'aller détecter les...
D'avoir les moyens d'analyser, d'avoir les bons analystes. Moi, je me souviens dans les années, je ne veux pas avoir l'air d'un ancien combattant, mais dans les années 80 ou 70, on ne travaillait avec un broker ou une firme qui faisait de l'intermédiation qu'en fonction de ses qualités de recherche. Et on avait des recherches exceptionnelles sur certaines sociétés. Aujourd'hui, très franchement, j'en connais peu ou pas.
Oui, ouais, effectivement, ça a changé et ça rend difficile, effectivement, aussi.
Je pense que les compagnies d'assurance ont un peu de ce qu'on appelle de buy-side, analyst buy-side, qui arrivent à détecter ou trouver des, de temps en temps des pépites, mais bon, on n'en sait rien.
Alors, donc, le mot de la fin, on investit en actions, mais on va le faire calmement et en essayant de trouver, de diversifier son portefeuille.
Et on ne regarde pas la tendance, sans faire attention à ce qui se passe, ça monte de 0,10, ça baisse de 0,10, ça monte de 3, ça baisse de 3, ça n'a aucune importance. Ça n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le sujet.
On remet dans le long terme.
Ce n'est pas l'intérêt, ce n'est pas le sujet.
Voilà, et ben on suivra ça, on se reparle dans quelques mois. Merci.
Avec plaisir, Didier, quand vous voulez.
Philippe Lahana d'avoir été avec nous, donc président du conseil de surveillance de Global Equities.
Absolument.